Bonjour à tous, frères et sœurs. Voilà, je voudrais, pour donner un titre à ce que je voudrais vous parler, c'est tout simplement un titre simple, mais c'est d'être encouragé à évangéliser, à témoigner. Et je me dis qu'au fond, si tous, chacun, nous considérons notre privilège de connaître le Seigneur, mais aussi de le dire aux autres, ce que tu aimerais que l'on fasse pour toi, fais-le de même pour eux. Ah, si j'étais perdu et que quelque part je cherche du mauvais côté, voilà que je croise le chemin de quelqu'un qui me dit quel est le bon chemin, je l'en remercierai. Oh, bien sûr, quand j'arriverai au ciel, je dirai toute encore ma louange, mon adoration au Seigneur. Mais ensuite, je remercierai celui, celle qui un jour s'est dévouée pour parler de Jésus à ma vie. Et je crois que nous sommes tous dans ce privilège de pouvoir rendre témoignage. Alors, sans tarder, je vous invite à faire une lecture dans l'évangile de Luc, chapitre 14. Et le verset 16, vous allez voir que je prends quelques passages, mais il y en a tellement d'autres, mais on ne peut pas faire que la lecture, mais expliquer l'évangélisation qui est biblique, pas une évangélisation dont moderniste, dans le sens qu'il va nous donner des techniques, un truc par lequel aujourd'hui on peut, eh bien, on va rester selon la parole de Dieu. Voilà, il est écrit dans Luc chapitre 14, verset 16, Jésus répondit, « Un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ, et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait. » Il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Une autre lecture dans Actes des Apôtres, le chapitre 1 et le verset 8. Jésus ressuscité, prêt à repartir au ciel, à être glorifié dans la gloire à la droite de Dieu, dira ceci, acte 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. » On va encore demander au Seigneur qu'il me donne sa parole, qu'il nous donne à tous un cœur ouvert et que nous puissions être à l'écoute de la parole de Dieu en disant « Sans retenue, Seigneur, parle et mets-moi en mouvement par rapport à ce que j'entends de toi. Seigneur, aide-nous à entendre ce que tu as à nous dire. » Devant, Seigneur, la situation d'un monde égarés, perdus, comme nous l'étions nous aussi autrefois, devant, Seigneur, les ténèbres qui s'épaississent. Seigneur, nous avons besoin de comprendre ce que, pourquoi tu nous laisses encore sur la terre. Nous te demandons d'intervenir aujourd'hui et que, Seigneur, avec ta grâce, nous puissions faire et boucler l'œuvre de Dieu dans, Seigneur, cette génération Nous voulons bien sûr dire « Amen, viens Seigneur, viens bientôt », mais de grâce Seigneur, pour tous ceux qui encore ne sont pas sauvés. Seigneur, nous te demandons grâce pour que Seigneur nous puissions travailler pendant qu'il fait jour, car la nuit vient où personne ne pourra plus travailler. Amen. Excusez-moi pour cette émotion. Alors, évangéliser, frères et sœurs, c'est porter, annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Et nous sommes tous ces porteurs de bonne nouvelle parce que nous l'avons rencontré et nous savons ce qu'il a fait pour nous. C'est une bonne nouvelle qui nous est arrivée et qui a été concrétisée par le fait que, étant en Christ, il n'y a plus de condamnation. Nous avions qu'une vie, elle était courte, comme une chandelle, on la brûlait par les deux bouts. On allait mourir sans espoir et tomber dans les temps de feu, à être tourmenté éternellement. La bonne nouvelle a frappé notre cœur. Nous avons été sauvés par la grâce de Dieu. Alors, si j'en juge comment j'ai rencontré le Seigneur, par un concours de circonstances, un traité évangélique avait été distribué à la sortie du collège agricole. Donc, je faisais des études pour l'agriculture, je me destinais à être exploitant agricole. Et puis, ce traité est allé ensuite dans les mains d'un de mes camarades d'école, qui l'a mis sous une pile de livres chez lui. Et je me souviens qu'à un certain moment, j'allais le voir comme ça, et je lui disais, un jour je vais partir en Afrique, et je devais partir avec l'organisme des volontaires du progrès pour des développements agricoles, et je lui disais quand même, c'est parce que j'ai envie d'être sauvé, je lui ai dit que je voudrais me racheter de toutes mes fautes. Il m'a dit, ah, tu me parles de Dieu? Alors lui, il n'était pas converti, il venait d'avoir ce traité évangélique. Il m'a dit, regarde, tiens, il est allé sur sa pile de livres, il m'a donné ce traité. Quand je l'ai lu, ça fait un boom dans mon cœur. J'ai écrit à celui qui a fait le traité évangélique, il avait écrit, donc il était de l'Assemblée de Nice, donc pour le pasteur Tanin, c'est aussi dans ce territoire. Il s'appelait Charles Dolciani, et donc il m'a donné l'adresse où l'on prêche l'évangile, dans le Gers, et le premier soir que j'ai entendu l'évangile, le Seigneur m'a sauvé. Je dis gloire à Dieu, je dis gloire à Dieu parce qu'il y a des personnes qui ont pensé à ne pas garder le témoignage pour eux. Et je voudrais que nous soyons encouragés, frères et sœurs, à dire aux autres la bonne nouvelle. Parfois, on peut penser que évangéliser, tiens, ça va être une campagne d'évangélisation que l'on va faire dans l'église, donc on va faire beaucoup de prospectus et on va les distribuer, on va faire une campagne d'évangélisation, on va inviter un grand évangéliste, et on pense à cela parfois dans le domaine de l'évangélisation. C'est une bonne chose, mais il y a plus que cela, et c'est pas ce qui est initialement conseillé par Jésus. Jésus a dit que nous devons aller et que nous devons proclamer la bonne nouvelle à tous les êtres humains, jusqu'au bout du monde, jusqu'aux extrémités de la terre, toute nation, toute langue, toute ethnie, tout individu, toute création humaine sur la terre a le droit et la dignité d'entendre comment être sauvée, parce que sans quoi elle part en enfer. Jésus a dit que nous tous, eh bien, nous devons porter notre témoignage et la bonne nouvelle à tout le monde. Qui peut donc évangéliser? Toi, ma sœur, toi, mon frère, nous tous qui avons rencontré le Seigneur, nous qui sommes passés des ténèbres à la lumière et qui maintenant avons nos péchés pardonnés, eh bien, nous sommes déjà en place pour rendre témoignage. On ne demande pas à un témoin qui est au tribunal de dire ce qu'il souhaite, ce qu'il pense, ce qu'il a entendu dire, mais on lui demande de dire ce qu'il a vu. Nous, nous sommes des témoins de l'expérience du salut que nous vivons. Nous ne sommes pas à la merci de ceux qui n'ont que des arguments, mais nous sommes convaincus d'être sauvés. Donc, chacun, nous avons le message. Nous avons le message. Si un maître nageur, dont on siffle, eh bien, une éventuelle noyade, eh bien, lui sait nager et sait aller porter secours à celui qui est en train de se noyer. S'il n'y va pas, alors personne ne comprendrait. C'est une non-assistance à personne en danger alors qu'il était qualifié. Nous tous, nous sommes devant la banqueroute humaine de la situation où le monde se perd. Mais nous avons la qualification, la capacité, parce que nous connaissons le Seigneur, de le dire aux autres. Avec nos mots, avec nos paroles, comme Philippe, Jean chapitre 1er, eh bien, il dira à Nathanaël, écoute, viens et vois. Notre témoignage, nous devons le dire. Voyez, j'ai regardé dans la parole de Dieu et je me risque parce que on a parfois des idées reçues. On a tellement prié, selon que Jésus l'a demandé, la moisson est blanche, il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. À quoi pensons-nous ? Seigneur, envoie des serviteurs de Dieu. On peut le comprendre comme ça, et c'est déjà bien, Seigneur, que au moins il y ait des serviteurs de Dieu dans les 5 continents du monde, dans plus de 200 pays sur la terre, qu'il y ait des serviteurs de Dieu à foison. Mais je comprends aussi ce passage. Les ouvriers dans la moisson sont peu nombreux, cela veut dire que les fidèles, les chrétiens, malheureusement, ne s'engagent pas à rendre témoignage. Nous devrions à 100% être des témoins de l'Évangile, porter l'Évangile partout, à 100%, d'après des statistiques que certains, et je ne sais pas si elles sont fiables, mais qui ont été faites dans des sondages, dans les continents, dans les églises locales et tout ça, il semblerait que seulement 30% des chrétiens s'engagent à témoigner, à évangéliser. Les ouvriers sont peu nombreux, Seigneur, pourtant tu nous as choisis. Je vous ai établi et je vous ai établi pour que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Et quel est ce fruit? Eh bien, c'est le fruit des âmes qui seront évangélisées, sauvées et qui demeureront éternellement avec le Seigneur dans la gloire. Pourquoi donc devons-nous évangéliser? Eh bien, parce que, premièrement, Jésus l'a dit. Il a dit « Allez !» Et à cette époque, beaucoup l'ont compris. Jésus, sous la forme de la parabole que nous avons lue, eh bien, dira que même si certains refusent, continuez à aller le long des chemins, sur les places, et puis encore, allez le long des haies, dans les campagnes, partout, et allez. Les premiers chrétiens l'ont bien compris. André dira à son frère Simon, « Nous avons trouvé le Messie ». Après, Philippe dira à Nathanaël, « Même si vous voulez discuter, viens et vois ». Et puis nous voyons que Jésus les envoyait deux à deux, partout. Ensuite, les actes des apôtres, nous y reviendrons, partout, eh bien, les gens potinaient l'Évangile pour que tout le monde soit au courant qu'une bonne nouvelle leur est arrivée, c'est qu'un Sauveur est venu et a donné sa vie pour sauver. Ainsi, eh bien, c'est un ordre de mission que Jésus nous demande de remplir en disant « Je voudrais que vous soyez tous des évangélistes, tous des ouvriers. » Je ne parle pas du ministère don d'évangélistes, mais je parle d'évangélistes tous. Nous pouvons l'être, et croyez-moi, c'est une grâce de Dieu de l'accomplir. Alors bien sûr, ce n'est pas une condition de salut, je préfère le dire, parce qu'il y a parfois des religions, entre guillemets, qui eh bien, en font une condition de salut, c'est-à-dire obligation de faire du porte-à-porte, d'aller, de faire. Non, dans la parole de Dieu, ça n'existe pas. On n'est pas sauvé parce qu'on est zélé, parce qu'on est bouillant pour évangéliser, mais on est sauvé par la foi dans le Seigneur Jésus qui a porté nos péchés, qui nous pardonne et qui est ressuscité. Alléluia. Ça, je voulais le dire. Mais quand on n'est pas forcé, c'est bien d'être motivé, d'être pressé par l'amour de Christ. Amen. Copions, dira la parole de Dieu, sur la fourmi. Regarde la fourmi. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Mais pourtant, elle prépare en été sa nourriture. Elle prépare la moisson. Ni chef, ni inspecteur, ni maître. Alors parfois, on peut penser que l'évangélisation, c'est quand il y a une équipe d'évangélisation dans l'Église, quand on organise, quand on y met des cadres. Tout ça, c'est bien. Mais l'évangélisation, ça devient, pour ceux qui le comprennent et qui le veulent, un mode de vie. C'est-à-dire, je ne peux pas taire mon témoignage, je ne peux pas taire ma vie par rapport à cette personne que je vois et qui est en danger, du plus grand danger, le plus terrifiant de toute l'humanité, c'est de se retrouver éternellement perdu. Alors, le Seigneur nous dit d'aller sans que vous soyez contraints, même si vous n'êtes pas dans un cadre, sachez qu'un mode de vie, le Seigneur nous envoie pour évangéliser. Amen. Alors, frères et sœurs, j'en viens à ce qui sera prêché tous les mardis soirs, sur le comportement. Parce que, je vais vous dire, évangéliser, c'est aussi briller comme une lumière. Et si je vous dis aujourd'hui, eh bien, est-ce que vraiment les apôtres s'adonnaient à faire des études bibliques sur l'évangélisation ? Je vais vous dire simplement que les apôtres prêchait aussi en vue de l'édification, en vue que la personne qui va évangéliser, eh bien, elle se fortifie pour s'affermir dans le Seigneur. Donc, l'évangélisation nous permet de connaître une croissance spirituelle. C'est-à-dire, pour nous, maintenant, nous voulons être des témoins visibles. Le Seigneur dira, l'arbre, on le reconnaît à son fruit. Avant que je parte à l'étranger, je n'avais jamais vu un manguier, mais un jour, j'ai reconnu un manguier la première fois que je suis arrivé en Afrique, parce que j'ai vu sur l'arbre les mangues. Et on nous reconnaît à notre fruit. Et puis, la parole de Dieu dit que nous sommes comme des lumières, comme des flambeaux dans le monde. Quelqu'un dira avant moi, ne maudissez pas les ténèbres, mais allumez une bougie. Et ce qui fait que si nous sommes tous des lumières dans tous ces coins sombres et enténébrés du monde, ce n'est pas une question qu'on veut faire quitter les ténèbres au nom de Jésus, mais nous sommes là, la lumière qui brille. Gloire au Seigneur. Vous êtes comme des flambeaux dans le monde. Une ville située sur une montagne ne passe pas inaperçue. Et c'est vrai que notre témoignage, notre vécu est important. Alléluia. Il y a un dicton en Afrique qui dit « Tu ne peux pas offrir un joli boubou neuf à ton ami si tu portes une culotte trouée. On ne peut pas, bien sûr, évangéliser si, quelque part, nous n'avons pas une vie qui correspond à ce qui est demandé par le Seigneur que l'on vive. Vous êtes une lettre connue des hommes, lue. Les gens, même s'ils disent « je refuse de lire la Bible », en te regardant vivre, il sait ce qu'il y a dans le contenu de la Bible, il connaît la parole de Dieu déjà de par ta vie. Et puis le Seigneur le dira, votre témoignage. À ceci, on va vous reconnaître à quoi? Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, l'amour pour notre semblable, pour notre prochain, c'est ce qui nous fait reconnaître. Il y a tellement de violence, de dureté, de cruauté, d'indifférence, d'égoïsme. Mais l'amour est caractéristique de l'enfant de Dieu et c'est ce vécu que nous devons avoir pour que notre témoignage puisse aussi s'affirmer, s'imposer, dirais-je, parce que le Seigneur veut que ça soit ainsi. Tout cela à la foi duquel il a été rendu témoignage, c'est-à-dire que notre témoignage vécu, c'est un témoignage de foi. On ne doute pas, on ne mélange pas toutes les doctrines et tous les idéaux qu'il y a sur la terre. Pour nous, notre foi, il n'y en a qu'une, c'est celle que nous avons dans le Seigneur Jésus, le seul et unique Sauveur qui a été donné sur la terre, par lequel nous puissions être sauvés. Nous ne nous laisserons pas entraîner par tout vent de doctrine, par toutes les idées qui passent et qui sont en vogue, même s'il s'agit d'idées qui se disent chrétiennes. Nous avons une foi absolue et nous restons dans ce chemin étroit et resserré. Alléluia, c'est ce témoignage-là que nous devons démontrer. C'est-à-dire que les gens parlent, discutent, et pourquoi Dieu laisse faire, et pourquoi nous avons cette foi à annoncer. Nous n'avons pas toutes les réponses au pourquoi. Dieu est souverain, à Dieu appartient les choses cachées. Nous ne pouvons pas tout savoir, mais notre foi ne sera pas ébranlée, quelles que soient les choses qui arrive, ou les arguments, ou les colères que les gens nous envoient à la figure, notre foi reste intacte. Nous savons de toutes les manières que c'est Jésus qui pourra sauver l'humanité, que c'est Jésus qui aura la réponse à tous les problèmes qui peuvent exister s'agissant de notre génération. Il a tout pensé, il a tout fait sur la croix, il a tout porté, il a tout accompli. Et même au-delà de tout ce que l'on cherche comme méthode, comme moyen de s'en sortir aujourd'hui avec la psychologie, avec toutes sortes de traitements où on pourrait sortir les gens du gouffre, eh bien nous savons que Jésus pourtant, lui est le seul à comprendre les cœurs. Il est le seul à porter la guérison aux cœurs blessés. Nous avons une foi qui reste inébranlable. Témoigner de Jésus, parler par notre vécu. Et puis, maintenant, frères et sœurs, je ne serai pas trop long, mais j'y arrive à ce point central, point focal du démarrage de l'évangélisation qui nous a permis de pouvoir entendre l'évangile aujourd'hui. Attendez. Oui, vous avez entendu, allez par le monde entier, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Mais attendez. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Ici, Jérusalem, dans la Judée, la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, voilà, je vais vous équiper et vous serez mes témoins. Qui donc? Les 12? Les 11 pour le moment? Après, il y aura eu le 12e? Non, le Seigneur, il dira, vous allez voir, vous serez mes témoins en recevant la puissance du Saint-Esprit. Sur qui elle est venue? Sur les 12? Il y en avait au moins 120. Et plus tard, Pierre dira, la promesse, elle est pour tous, pour chacun, à nos si grands nombres que nos Seigneurs, notre Dieu, les appellera. Alléluia. Et je veux vous dire, frères et sœurs, je suis faible. Mais le Saint-Esprit, quand il nous remplit, nous rend fort. Je suis incapable de prêcher, de donner la parole, de rendre témoignage. Mais le Saint-Esprit va faire de toi un témoin. Il y a un homme, je crois que c'était Savonarole ou Bossuet, qui disait cela. Il est plus facile de faire un sermon que de donner quelques paroles à la face d'un pécheur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, témoigner pour qui on va me prendre, on va me prendre pour une secte, on va se moquer de moi, je vais perdre des amis. Et parfois, on est hésitant, on est tremblant. Le Saint-Esprit veut nous baptiser, nous remplir de toute sa puissance. Vous recevrez la puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Tiens, Pierre, qui quelques jours avant venait de renier tout tremblant Jésus, le voilà qui affirme, le voilà plein de puissance, le voilà plus tard qui dira « Je préfère obéir à Dieu qu'aux hommes, je n'ai pas peur. Pourquoi ?» Pourquoi? Mais c'est le Saint-Esprit qui nous transforme et qui fait de nous des témoins. Et frères et sœurs, c'est d'actualité plus que toute l'actualité, c'est toujours pareil. Nous voulons évangéliser, nous voulons gagner des âmes, nous voulons voir des multitudes. L'Église s'accroissait, il est dit en Samarie, par l'assistance du Saint-Esprit. Le Seigneur ajoute à son Église les âmes qui sont sauvées par la puissance du Saint-Esprit. Alors, je vais vous dire, frères et sœurs, ce que nous sommes tous incapables, le Saint-Esprit nous en rend capables. Il est dit que lors de la persécution d'Étienne, les gens partirent partout, dispersés, un peu comme on voit aujourd'hui les réfugiés qui partent. Tous, et vous savez, quelle tristesse! On aurait pu dire, mais dans mon état de faiblesse, de tristesse, j'ai tout abandonné, j'ai tout quitté, je suis sans rien. On me persécute en plus. Je veux penser comment je vais m'en sortir. Eh bien, pourtant, pendant ce moment-là, Actes 19:1 nous dit que les gens, les chrétiens, parlaient de Jésus aux Juifs. D'autres sont partis de Chypre et ils sont allés plus loin, ils sont allés parler aux païens, parce que déjà à l'époque on ne savait pas s'il fallait parler aux païens. Et il est dit qu'il y a tellement eu de grâce que ce fut l'Église qui a été établie à Antioche. C'est de là que les disciples ont commencé à s'appeler chrétiens. Et c'est de là, de cette plateforme-là, que les apôtres ont été envoyés dans le monde. Rendez-vous compte. Impossible! On est dispersé, on est persécuté, on vient de lapider. Eh bien, Étienne, comment j'ai envie? Eh bien, n'ayons pas peur. Frères et sœurs, parlons de Jésus parce que la puissance du Saint-Esprit nous en rend capables. Tu recevras la puissance du Saint-Esprit. Il ne sera pas timide, ni dans la crainte, mais tu recevras un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est écrit? C'est oui? Alors, recevons-le. Et même, ils ne se sont pas contentés, les 120, d'être tous baptisés du Saint-Esprit, mais plus tard encore, quand ça commençait à bouger, la persécution, ils ont prié, et tout à nouveau, ils furent renouvelés, remplis tout à nouveau du Saint-Esprit. Et croyez-moi, avec l'aide du Saint-Esprit, les signes, les miracles accompagnaient la parole, les témoignages qui étaient annoncés. Alors, frères et sœurs, je veux vous le dire du fond du cœur, recherchez d'être baptisé du Saint-Esprit. Vous pouvez l'être chez vous, dans votre chambre, pendant que vous cherchez le Seigneur, parce que la motivation, le Seigneur l'a dit. Je ne veux pas être baptisé du Saint-Esprit parce qu'on est dans un milieu pentecôtiste. Je ne veux pas être baptisé du Saint-Esprit parce que ma sœur, mon frère l'a reçu. Je veux être baptisé du Saint-Esprit, Seigneur, avec des mobiles purs, des motivations saines pour être un témoin, Seigneur, parce que tu l'as promis. Et ça, si cette motivation vous engage, vous allez rechercher le Saint-Esprit. Et si depuis des années, vous ne l'aviez jamais reçu, n'oubliez pas que la motivation, je dirais, directe, initiale, qui vous permet de vous le demander, Seigneur, je veux sur cette terre, dans ma génération, être un témoignage. Je veux rendre témoignage. Je veux sauver ma génération, Seigneur. Mais je n'y arriverai pas. L'homme ne pourra jamais sauver l'homme, ne pourra jamais y parvenir. On ne pourra rien faire. Je pourrai étudier dans les plus grandes écoles du pouvoir oratoire. Jamais je ne pourrai persuader quelqu'un d'être né de nouveau et d'être né de nouveau. Mais quand la puissance du Saint-Esprit peut tomber sur un homme, une femme, même si nous n'avons aucune instruction, eh bien, le Saint-Esprit, c'est lui qui, au travers de nous, gagnera, évangélisera et la gloire de Dieu sera assurée. Alléluia. Alléluia. Quelques instants, s'il vous plaît, pour vous dire aussi, Jésus a dit, levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent pour la moisson. Vous vous dites, oui, on est habitué, on a des habitudes, des choses que on pense, mais pendant qu'on lève les yeux, je vois les gens blessés. Je vois les gens sans espoir sur cette terre. Je vois les gens esclaves de l'alcool, de la drogue, de l'impureté, des dérèglements. Je lève les yeux, je vois les gens pauvres, riches peut-être extérieurement. Je vois aussi des gens pauvres et qui sont malheureux. Je lève les yeux et je vois des gens qui sont la proie de l'occultisme, tout cet ésotérisme qui aujourd'hui facilement les gens s'y engagent. La fin justifie les moyens, il n'y a que le résultat qui compte. Ils vont à l'horoscope, ils vont voir des voyants, ils se font prédire l'avenir. Ils vont même essayer de voir des médiums pour parler avec un défunt qu'ils voudraient encore communiquer. Ainsi, les gens sont égarés dans l'occultisme. Levez les yeux. Que de gens trompés dans leur religion, qui se feraient massacrer, qui mourraient pour leurs convictions religieuses, et pourtant, ils n'ont pas la vérité qui est Jésus. Levez les yeux. Que de gens dans la haine, déçus, frustrés de tous les êtres humains, qui sont dans la haine et qui en meurent de haine. Et pourtant, en levant les yeux, je regarde mon semblable. C'était moi, avant que je connaisse Jésus, celui que je regarde aujourd'hui. Pourrais-je le critiquer alors que j'ai le témoignage pour le sauver, pour l'éclairer, qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas? C'est quand même mon semblable. Il a des sentiments comme moi, il ressent comme moi. Il voit qu'à l'horizon, il n'y a rien si ce n'est la terreur, la peur. Nous étions de leur nombre. Nous étions comme ça. C'était mon semblable, c'est mon semblable. Je lève les yeux, je le vois. Et puis je lève les yeux, je vois une âme. Un être éternel, c'est-à-dire qu'il est né pour l'éternité, qu'il ne pourra pas revenir à l'annihilation, à l'anéantissement, au fait de ne pas avoir existé, ni être réincarné. nous le savons bien, c'est un être éternel et qui peut avoir la grâce et la chance comme nous de passer du bon côté et de vivre dans le paradis éternellement avec le Seigneur ou aller dans l'étang de feu dont la fumée de leur tourment montera aux âges des âges qui se percuteront par milliards d'années sur les années où il n'y aura pas de fin. C'est un être éternel. Même s'il a fait des choses monstrueuses, accablantes, scandaleuses, et qu'on ne peut pas imaginer qu'un être humain ait pu inventer de faire ce qu'il fait. Derrière tout cela, voyons que c'est Satan qui se venge de Dieu en perdant les âmes et en faisant faire le mal. Mais n'oublions pas que son âme éternelle, Dieu l'a tant aimé. Dieu l'a tant aimé qu'il a donné de son cœur, qu'il a arraché de son cœur son fils unique pour que cette âme soit avec lui pour l'éternité. Lève les yeux, cesse de regarder en bas pour toutes les raisons, les solutions, les idées que les gens ont. C'est tout pour la terre et pourtant gagner le monde. Si tu perds son âme, ton âme, mais si tu gagnes le monde et que tu perds aussi son âme, c'est grave. Toi qui sais, tu es comme une sentinelle. Tu regardes, tu veilles très attentivement et tu vois que tu peux sauver cet être éternel, lui porter tout au moins le témoignage. On ne sait pas si au dernier instant de sa vie, comme le brigand sur la croix, in extremis, eh bien, cette personne invoquera Jésus et sera sauvée. Alors, lève les yeux, la vision. La vision, c'est, je le répète, mais quand même, c'est que seul Jésus sauve. Je ne voudrais pas que nous nous détournions de la simplicité à l'égard de l'Évangile, à l'égard de notre témoignage vécu et que nous devons propager. Seul Jésus-Christ est le sauveur de toute l'humanité, de tous les peuples, de toutes les langues, de toutes les ethnies. Seul Jésus, même si les gens sont nés en ce qu'on leur mette une religion, leur tradition, leur coutume, seul Jésus est le sauveur de tous et de chacun. Un seul est mort, victime expiatoire, pour pardonner les péchés du monde entier, Jésus-Christ. Seul Jésus a vaincu Satan, détruit ses œuvres du diable, pour nous humains. Seul Jésus a pu faire cela. Seul Jésus, sur la croix du calvaire, a pu dire à Dieu son Père, dans la relation du Père, du Fils, tout est accompli. Dieu n'a rien dit pour le prouver. Il a ressuscité son Fils d'entre les morts. Tout est accompli et cette vision, il nous la faut pour savoir qu'il n'y a pas quelques succès d'années qui peuvent quand même apaiser la situation morbide dans laquelle se trouve le monde et va se destiner. Il n'y a pas de succès d'année, il n'y a pas autre chose, il n'y a pas de compensation, il n'y a pas d'autre alternative, il n'y a que Jésus qui nous sauve. Si on gagnait tout et qu'on voit le monde perdu, pourrait-on vivre confortablement chez nous, bien installé dans notre cocooning et se dire qu'après tout, merci Seigneur, je suis sauvé. Un monde se meurt. Plus de 7 milliards et demi sur la planète sont là, en proie au tourment et à la destinée terrifiante. Il n'y a encore qu'une poignée de frères et sœurs nés de nouveau. Nous devons tout faire pour porter l'Évangile. Si chacun, eh bien, le fait, si chacun, nous le verrons la prochaine fois, eh bien, s'implique dans une prière d'intercession et de combat, nous allons gagner les âmes. Nous allons gagner les âmes. Ta vision, c'est que la vie d'un être humain, elle est courte après tout. Faites des comparaisons. Qu'est-ce que même si, aujourd'hui, il y en a des gens qui vivent jusqu'à 100 ans, si dans l'au-delà, c'est l'éternité. Est-ce que vous êtes arrêté sur le mot éternel? On a dit qu'il y a des années, en Angleterre, à la sortie des métros, certains ont mis simplement la pancarte éternité. Et beaucoup de la population ont demandé qu'on enlève cette pancarte. Tellement que le tourment était grand. Dieu a mis dans le cœur la pensée de l'éternité pourtant. Et c'est pourquoi les gens sont religieux, cherchent du mauvais côté. Et c'est vrai, l'éternité, la vie est courte. La nuit vient, bientôt, où on ne pourra rien faire. Après tout, Jésus aussi peut arriver d'un instant à l'autre que le Seigneur nous trouve engagés dans l'évangélisation tant que l'on peut, tant qu'il fait jour, tant que c'est un temps de grâce, tant que Jésus est assis sur le trône de grâce pour tous les êtres humains. Il n'est pas le juge pour le moment. Il est la grâce et la vérité qui est venue jusqu'à nous. Levez les yeux, la vision. Je ne vais pas m'y arrêter, j'en ai déjà fait mention. Mais l'enfer existe, le paradis aussi. Mais l'enfer existe. J'ai discuté une fois, je ne dirai pas quelle position ils avaient, mais c'était des personnes qui auraient été censées connaître les passages de l'Apocalypse et de ce que Jésus a parlé au sujet de la géhenne, au sujet du feu, au sujet de l'étang de feu. Eh bien, ces personnes m'ont dit que Dieu est trop amour pour envoyer les gens en enfer. Et j'avais beau lui dire, voilà ce qu'il est écrit, qu'un jour, des livres seront ouverts et tous ceux qui n'auront pas été écrits dans le livre de vie seront jetés dans l'étang de feu. La fumée de leur tourment montera aux âges des âges. Ils n'ont pas voulu le croire. Et il y a des personnes aujourd'hui qui discutent en disant, non, ce n'est pas possible. Vous prêchez un Dieu d'amour. Oui, Dieu prouve son amour en ce qu'il a donné son Fils unique. Qu'est-ce que vous voulez de plus? L'amour de Dieu ça a été prouvé en ce que Jésus a souffert cruellement, l'agonie sur la croix pour que nous n'allions pas à l'enfer. Alors aujourd'hui, je veux vous le dire, l'enfer existe. Le sort éternel qui attend des êtres humains existe et c'est pourquoi nous devons tout faire pour évangéliser. Et je termine par des idées simplement, tout à fait terre à terre, pas des techniques, pas des méthodes, mais notre vécu de tous les jours, notre quotidien de flambeau dans le monde, de lumière, de sentinelle qui avertit. Partout, on peut rendre témoignage chez le boulanger, dans le métro, en faisant du covoiturage, si c'est possible. Au travail, même si ce n'est pas en période de l'heure du travail, on peut avoir des amis à la sortie du travail. Rendre témoignage par le bénévolat, par les aides humanitaires, sociales. Il y en a tellement besoin, rendre témoignage aussi. En faisant un métier qui nous permet de partir en mission vers les peuples, dans l'humanitaire, rendre témoignage dans les mariages, dans les enterrements, de toute façon nos semblables, on les a au contact tous les jours. Rendre témoignage, comme ça a été dit, dans notre famille, à nos enfants, à nos petits-enfants. Tiens, j'ai la garde de mes petits-enfants. Aujourd'hui, dimanche après-midi, avec le consentement des parents, je veux l'amener à la réunion d'évangélisation. Rends témoignage par les écoles du dimanche, parce que les enfants seront demain ce qu'on en fait aujourd'hui. Ils ont besoin de Jésus et ils grandiront. Aujourd'hui, après 9 ans de mission parmi les gourmanchés, j'ai vu des enfants comme ça. Aujourd'hui, ils sont comme ça, ils sont dans la chorale, ils sont chrétiens. À un moment donné, quand on les voyait, ils étaient comme tous les enfants, mais de suite, à leur âge, ils ont été harponnés par l'Évangile. Et aujourd'hui, ils sont des chrétiens et même ils portent l'Évangile aux autres. Rendre témoignage quand nous sommes dans l'avion, quand nous sommes à la pêche, si vous allez à la pêche. Rendre témoignage quand vous faites du sport, du jogging. Il y a toujours des occasions, dans des repas de famille. Oui, c'est peut-être pas, écoutez, silence tout le monde, je vais parler. Mais l'un, l'autre, qui nous demande raison de notre espérance, de notre joie, de quelque chose, comment tu as la paix, pourtant il y a des problèmes, comment ça se fait? Rends témoignage. Rends témoignage parfois aussi, faut le dire, dans nos communautés. Parfois il y a des communautés africaines qui se retrouvent en France et avec lesquelles on a beaucoup de contacts, des communautés antillaises et autres, et on se retrouve souvent de notre pays que l'on a quitté. Et on a ces contacts, et là, c'est une occasion de rendre aussi témoignage. Rendre témoignage par l'argent. Et donc, quelqu'un à partir en mission comme vous le faites, parce que cette personne envoyée aussi, comment entendront-ils parler? Comment invoqueront-ils celui dont ils n'ont jamais entendu parler si personne ne prêche? Et comment y aura-t-il des envoyés? Eh bien, par l'argent, par les moyens, vous pouvez aussi rendre témoignage. Rendre témoignage aussi, vous savez, frères et sœurs, parce que nous sommes au contact de gens malades. Des maladies, peut-être de rien, des maladies graves, des maladies incurables. Et parler de Jésus qui guérit. Oh, bien sûr, vous pouvez dire à la personne, je vais demander au pasteur de venir vous visiter, et c'est vrai, c'est une bonne chose, le pasteur va venir. Mais vous pouvez prier déjà pour le malade. Pas une question d'imposer les mains. Prions, parce que Jésus a dit qu'il guérit les malades. Et c'est une occasion de témoignage. C'est une base. D'ailleurs, on a vu beaucoup de gens sauvés à cause du témoignage de leur guérison. Rendre témoignage, frères et sœurs, aux SDF, qui sont faciles à contacter parce qu'ils sont assis sur un trottoir, et bien sûr avec sagesse, mais avec amour, avec pas de la condescendance, de la compassion. Cette compassion qui fait qu'on se met à la place, et moi aussi j'aurais pu perdre tout et être à sa place, mais il a une âme. Et rendre témoignage par le téléphone, par Internet. Je vous disais l'autre fois que j'ai reçu, peut-être ils voient mon âge, j'ai reçu un jour un spam qu'il faut penser eh bien, à notre enterrement, qu'il faut assurance décès. Voilà. Alors moi, vous savez, j'ai appuyé sur répondre et j'ai dit voilà, j'ai une assurance et j'ai rendu témoignage de Jésus. Depuis, j'ai plus de spam sur assurance décès. Tous les moyens pour que nous puissions parler de Jésus. Et puis, il y a des campagnes, il y a des fermes isolées. Et parfois, il y a des organismes comme Croisade de maison à maison, CMM. Vous pouvez en faire venir pour vous. Et vous dites, tel village, je veux cibler tous ces villages. Parce qu'il y a dans ce prospectus le message par lequel on peut être sauvé. Et prier, bien sûr. Toutes sortes de moyens de rendre témoignage. J'ai lu dernièrement ce reportage. Le nombre grandissant de convertis en Amérique du Sud est dû essentiellement à une hardiesse toujours plus grande à témoigner du Seigneur. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse pour que nous puissions, dès maintenant, prendre acte et rendre témoignage, déjà commencé dans notre maison, le grand-père, la grand-mère. Oh, il a une âme. L'enfant, les personnes, de toute façon, mon vécu, les paroles que je dirai, le Seigneur fera le reste. Parce qu'il a dit que de toute façon, le semeur, il doit sortir pour semer, et quand il est sorti, tant pis, si c'était un chemin, si c'était un sol rocailleux, si c'était un sol épineux, de toute façon, il ne s'est pas posé la question, il a répandu la semence, et à un moment donné, il a trouvé la bonne terre, mais en tout cas, le semeur s'est levé, et il est sorti pour semer. Parfois, on regarde les nuages, on regarde le vent, celui qui regarde les nuages ne sèmera pas, celui qui regarde le vent ne moissonnera pas. On ne doit pas se poser les questions, on doit se dire, Seigneur, tu n'as pas choisi les anges ni quiconque d'autre, mais Seigneur, tu as choisi ma vie en tant que chrétien pour que je rende témoignage. S'agissant de la bonne terre que l'on va trouver, je vais terminer par cela. Dernièrement, j'étais au téléphone avec un pasteur gourmandier, et il me dit dans son expression, il m'a dit, on a ouvert un nouveau village à l'Évangile. Ces gens-là, ils m'ont envoyé une délégation tellement souvent qu'ils nous ont fatigués pour que nous venions les évangéliser. À force de parler, à force des fois d'échecs, à force, on peut trouver la bonne terre et le Seigneur le fera, ma sœur et mon frère. Allez par le monde, allez tout près de chez vous, allez dehors, bougez. Et je dirais en conclusion, et pourquoi pas, par rapport à la parole de Dieu, nous fassions un plan d'action d'évangélisation. C'est-à-dire cette semaine, je m'engage devant toi, Seigneur, à parler à une âme nouvelle. Commençons par des petits pas. Si vous êtes un grand évangéliste, continuez de toute façon. Mais je dis à ceux qui, peut-être, avaient besoin de cette conviction. Cette semaine, je m'engage avec ta grâce, Seigneur, avec la puissance du Saint-Esprit que je te réclame, de parler à une âme nouvelle. Et puis cette semaine, Seigneur, je vais aussi parler à quelqu'un pour l'amener à la réunion d'évangélisation dimanche après-midi ou vendredi soir. Je vais lui donner rendez-vous ou je vais lui proposer d'aller la chercher. Peut-être c'est une grand-mère toute courbaturée qui serait contente que des fois on la promène. En tout cas, c'est une âme, tout le monde est une âme. Et je vais me charger, peut-être c'est un de mes petits-fils. Il est pré-ado, il a plein de trucs, il est toujours avec ça. Allez, tu viens. Les parents sont d'accord, ben ouais. Je veux, Seigneur, mettre un plan d'action, d'évangélisation personnelle, de manière en ce que, oui, il y a l'évangélisation à grand tirage, collectivement, avec l'Église et tout ça, ou des évangélistes qui viennent. Mais Seigneur, moi, je veux amener une âme. À la réunion, je veux aussi parler à une nouvelle âme, même si elle me crache au visage. De toute façon, Seigneur, on l'a fait à toi, mais ça vaut la peine de s'essuyer pourvu que j'ai tout fait pour amener les âmes au salut. Prions. Vous voulez vous lever et comme si, sans vous forcer, comme je vous l'ai dit, c'est pas forcé, l'évangélisation n'est pas forcée, mais c'est un mode de vie, eh bien, vous pouvez vous dire au Seigneur que vous vous engagez. Il est dit, il y a des années de ça, dans l'église de Spurgeon en Angleterre, chaque année, l'église se levait et faisait le vœu d'évangéliser toute l'année. Eh bien, que nous puissions prendre acte et que le Seigneur nous y convie. Prions. Seigneur, aide-nous à, Seigneur, parler de toi. Ça semble, Seigneur, très classique, très ordinaire, et pourtant, c'est tellement le moyen pour nous d'être toujours encore au plus près lorsqu'on prépare les autres. L'arroseur est lui-même arrosé. Que ta grâce, Seigneur, visite chacun de mes frères et sœurs et que nous puissions voir l'Église s'accroître par l'assistance du Saint-Esprit qui aura fait témoigner chacun de nous et que nous puissions non seulement voir notre localité, mais la ville de Toulouse, les environs, les villages, là où il y a une âme qui se meut dans une campagne la plus perdue. Sauve-les, Seigneur, sauve-les, Seigneur, et envoie-nous comme tu le veux, au nom de Jésus. Amen.